Bon, simplement, on commence à aborder cette question des gestes de métier. Je crois qu'il faut on considère que le métier d'enseignant, ce n'est pas simplement une mission. Hein. Quand vous examinez les textes, c'est souvent une mission, on a une mission à faire. Moi, je ne suis pas curé, je ne suis pas militaire, je suis un enseignant. Donc, je suis pas, j'ai une mission aussi éducative, mais bon, ça n'a pas le même sens que d'ailleurs. Et depuis quelques années, c'est quand même considéré ce métier comme un travail, un réel travail. Donc du coup, quand on a commencé à penser travail, eh bien, l'analyse de pratique est venue, l'analyse du travail. Moi, je peux substituer analyse de pratique à analyse du travail. Donc les travaux de recherche ont porté d'abord sur l'analyse de travail. D'autres travaux parallèlement, Étienne, tu me corriges parce qu'on est de la même génération, travailler sur la formation, tiens, animer le GEAS. Donc à côté des travaux sur le travail, il y avait des travaux sur la formation qui s'intéressaient aux pratiques. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que les deux se rejoignent. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez quand même, au niveau des travaux de recherche et de formation très liés, ce que je trouve intéressant, c'est que recherche et formation sont peut-être pour la première fois sur ce métier extrêmement étroits. Enfin, c'est comme ça que je réponds à votre question. Oui, voilà.
C'est pas une question.
Oui, c'était pour contextualiser l'intervention.
Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire par rapport à notre pratique à nous, oui, et à comment on aborde les choses et quels sont les points en fait, forts qu'on est. Enfin, moi, j'essaye de mettre en œuvre avec les collègues que j'ai en fait en formation, parce que je fais de la formation dans mes conseils pédagogiques, puis j'en ai fait beaucoup en sciences, puisque j'étais personne en ressources en sciences. En fait, ce que j'essaye de pratiquer, c'est dans une mise en situation avec les collègues, de faire des références dans ma façon, moi, d'aborder les choses lorsque je suis dans un temps de formation. Hein. Comment je peux transférer ça dans ma classe. C'est-à-dire que je leur dis souvent, ben voilà, vous allez tenir une trace écrite, un peu comme ce qui se passe avec les élèves. Enfin, je ne sais pas si ça relève des gestes de formation, mais essayer de donner des pistes qui font que finalement, on va essayer de travailler sur ces gestes professionnels, c'est-à-dire les mettre en travail de groupe. Voilà, ça se décide, c'est moi qui vais vous mettre en travail de groupe. Je ne vais pas vous laisser à certains moments gérer ce travail de groupe, ou à d'autres moments, je pourrais le laisser gérer par chacun pourrait choisir la manière dont il pourrait se mettre en groupe. Voilà, essayer de donner des pistes pour que, par rapport à leur propre pratique, ils se fassent aussi une image de voilà, comment eux, ils fonctionnent, et comment on pourrait peut-être aussi fonctionner d'une autre manière, qui ferait que bah, peut-être il y a des choses que des gens vont pouvoir s'approprier et se dire bah oui tiens peut-être que ça marche peut-être mieux comme ça, ou ben voilà on était à plusieurs à réfléchir sur un problème qu'on nous a posé, ben voilà c'est intéressant parce que là on n'avait pas tous les mêmes points de vue, donc je trouve que c'est aborder les choses par les mises en situation, et à chaque fois je pense qu'il faut pas qu'il y ait de l'implicite, il faut en tant que formateur verbaliser voilà qu'est-ce qui était intéressant dans cette situation là, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au niveau du fonctionnement de l'acte d'enseigner. Donc je trouve que voilà, c'est des choses sur lesquelles j'essaie de m'appuyer, mais après ça ne résout pas tout non plus.
C'est la question de l'isomorphie dans les pratiques. En formation, comment faire pratiquer au cours de stage de formation, faire des pratiques avec une isomorphie, c'est-à-dire que ces pratiques on pourrait être transposées avec les élèves. Le gros problème, c'est comment faire le passage. Hein. Donc, vous disiez, faire verbaliser le passage, rendre explicite ce passage, pas se contenter de le faire, de le pratiquer, mais rendre explicite le passage du temps de formation au temps d'enseignement. Ça, quel que soit le dispositif, moi, je crois que c'est important. Moi, je sens la même chose, quoi. Ce genre de verbalisation, de pont entre ce qu'on vit actuellement, présentement, et ce que je pourrais faire avec eux. Alors, comme je suis prof de vie, souvent, c'est par le corps. Hein. Je fais des trucs d'apprentissage par des situations uniques. C'est des apprentissages de maths, les profs de maths, je leur fais faire du corps.
Moi, je me pose vraiment la question, parce que je suis conseillère pédagogique pour enseignement spécialisé. Et donc, le travail d'individualisation, de personnalisation, il est premier chez nous, parce que tous les enseignants spécialisés sont face à des publics tellement différents dans une même structure, dans une même classe ou dans un même dispositif, qui sont obligés d'individualiser. Et moi, ce qui m'a questionné quand même beaucoup ce matin, c'est entre l'individualisation et la personnalisation. Et aussi, comment ne pas aller dans l'effet complètement inverse, c'est-à-dire d'avoir que de l'individualisation et plus justement de groupes classes avec des choses qui se passent. Comment faire quand on est soucieux de la spécificité de cet élève-là, tout en ayant quand même une pratique qui soit aussi un ensemble d'un groupe classe, hein, avec l'émulation, avec tout ce qui se passe dans un groupe classe. Et moi, c'est vraiment une question en tant que formatrice, parce que... On est toujours entre ces deux domaines-là, et je trouve que c'est très prégnant dans l'enseignement spécialisé. Parce qu'on voit des classes qui fonctionnent où il n'y a exclusivement que de l'individualisation. Individualisation d'apprentissage, de parcours, de méthode, de tout. Et du coup, je me dis, c'est plus... Enfin, l'élève, où il se retrouve avec ça. Alors, c'est sûr, il a des choses très, très adaptées à ses besoins, mais c'est complètement morcelé. Et du coup, il n'y a plus de lien avec les autres qui sont dans la même classe. Il y a aussi tout le problème des parcours qui sont spécifiques, hein, avec des temps de soins, des temps de scolarisation, des scolarisations rallongées ou parallèles par d'autres. Voilà. Et du coup, je me dis, parfois, on a du mal à, justement, au contraire, à sortir de là. À l'inverse d'autres classes très, très ordinaires, et en particulier au collège, où je vois quand il y a un élève handicapé dans une classe ordinaire, où là, la personnalisation pose vraiment problème, parce que l'enseignant a confronté à ses difficultés, à tous ces gestes professionnels qu'il n'a pas acquis, qu'il ne connaît pas, du fait qu'avant, on enseignait pour tout le monde partout la même chose. Et moi, j'ai vraiment ces deux paradoxes, puisque j'interviens aussi bien dans le premier degré que dans le second degré, soit sur les structures spécialisées, soit sur la scolarisation des élèves handicapés en classe ordinaire. Et je me retrouve toujours confrontée entre ces deux mondes complètement différents.
Oui. Moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que là, on a parlé toute la journée d'individualisation, et puis au niveau européen, mais un peu au niveau mondial aussi, justement, on est vers le tout inclusion.
Hein,
c'est-à-dire, au contraire, la loi de 2005, ses applications et toutes les précautions d'engage qu'on prend, c'est justement de ne pas couper, de ne pas séparer par rapport à des personnes en situation de handicap, parce qu'on sait très bien que... Alors, du coup, l'individualisation, en écoutant Anne-Marie Armand, ça a un côté idéologique, mais parfois aussi l'inclusion. Ça peut avoir un côté idéologique, et on est dans un entre-deux. Et là, c'est vrai que, du coup, la construction de gestes professionnels, mais aussi de situations d'équipe, vraiment, là, on commence à réfléchir sur les situations d'équipe, parce qu'on en a un petit peu parlé ce matin sur le fait qu'il y ait plusieurs adultes qui interviennent, donc les ASH, là, c'est parfois la catastrophe.
Ah oui, et parfois des quand il y a des AVS, des soignants, des thérapeutes, des enseignants...
Là, ça devient difficile à gérer. Et en même temps que ça se passe, heureusement, la plupart du temps, dans la classe. Et donc, il y a une unité de lieu et une unité de temps où on doit pouvoir construire quelque chose en commun. Alors là, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut aussi agir dans la classe, mais il faut avoir un espace pour faire au moins des débriefings, ou au mieux de l'analyse de l'activité et de la coactivité. Sinon, on ne va pas s'en sortir, on va devenir fou. Parce qu'on va devenir fou, parce que l'individualisation, la personnalisation, ça coupe l'individu. Et puis, l'inclusion extrême dans certains pays européens, donc on a complètement supprimé tous les enseignants spécialisés. On a perdu tous les savoirs qui s'étaient mis en place. Et donc, on a une idéologie de l'inclusion à tout prix, mais sans les outils, sans les moyens, sans les dispositifs. Donc c'est intéressant, parce que ça peut nous permettre d'avancer un petit peu sur...
Je crois que la question qu'on peut se poser, c'est ce sur quoi, le point sur lequel on partage. Parce que si le point sur lequel on partage, c'est un espace et un temps donné, on est sûr du fonctionnel, donc on réunit des personnes, on doit aménager des temps d'échange, etc. Alors que si on s'interrogeait sur... Si on partageait sur la compétence attendue de l'élève, on s'interrogerait sur d'autres un autre point. Et du coup, on se positionnait en tant qu'enseignant ou en tant que soignant ou en tant que personnel qui accompagne sur un autre questionnement. Et donc, du coup, on aborderait peut-être le problème d'une autre façon. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Il a interrogé les
attendus. On changerait de logique, en fait, de fonctionnement. Et
interroger les attendus, moi, quand je vous écoutais...
Je pensais aux compétences, quand le collègue intervenait.
Moi, quand je vous écoutais, vous disiez « je ». Et moi, je me disais « mettez-le nous ». C'est-à-dire, puisque vous n'êtes pas toute seule.
Et si, je suis toute seule.
Ah. Expliquez un peu plus.
Je suis toute seule dans le département et voilà. C'est ça le problème. Donc, c'est que je suis.
Non, mais c'est important, voyez.
De l'isolement. Donc on fait voilà. Avec ce qu'on a tout seul et tout ce qu'on peut. Alors on confronte un petit peu avec les formateurs de l'UFM de Grenoble, puisqu'on d'accord. Est formateur associé rattaché dans le cadre de la formation 4XH à l'UFM de Grenoble. Mais ces temps de confrontation, bon, ils sont malheureusement que de 3 ans l'année, donc on a du mal. Enfin, on avance petit à petit, mais je suis toute seule à aller voir ces enseignants ou à aller voir ces enseignants en situation, soit en situation de formation, soit en situation d'accueillir des élèves handicapés. Et donc, du coup, je suis obligée de construire qu'avec, toute seule, quoi, qu'avec ce que je ressens, ce que je sens, ce que je vois, ce que je... Et c'est là où l'analyse de la pratique, moi j'aimerais bien qu'il existe des possibilités justement d'avoir des analyses de la pratique, d'avoir des regards extérieurs, d'avoir des formations extérieures. Parce que je trouve qu'on tourne très vite sur nous-mêmes. Quoi. Enfin, danger, c'est de...
Et en plus, la situation que vous avez, c'est celle de conseillère.
Ah oui.
L'idée, c'est plutôt de passer du donner conseil à du tenir conseil. Et là, vous êtes indispensable. C'est vrai que dans les départements, il y a plusieurs conseillers. Déjà, ils peuvent travailler collectivement et ils peuvent aussi travailler collectivement avec les équipes. Mais depuis ce matin, je crois qu'on ne s'en tirera pas. Parce que plus on va vers l'individualisation et la personnalisation, je ne l'ai pas dit, mais plus on va travailler en équipe. C'est évident, hein, tout ce que les autres ont dit, ça nécessite beaucoup de travail en équipe, beaucoup de travail en projet. Et c'est vrai que le sentiment de solitude là, que vous nous
avez... J'ai l'impression, j'espérais qu'avec la loi de 2005, ouais. Tous les conseillers pédagogiques se sentiraient concernés par justement cette individualisation et cette personnalisation des parcours, des apprentissages, des situations d'apprentissage et tout, et je me rends compte que le chemin, il est encore long à parcourir. C'est-à-dire que quand on parle, quand je discute avec des conseillers pédagogiques ordinaires, justement de ce que j'ai vu dans les classes, et parfois j'essaie de les associer avec moi. Quand je vais dans une classe ordinaire, je leur demande d'être présents, qu'on soit associés pour lui leur montrer que le champ du handicap, c'est pas seulement de mon domaine à moi, c'est du domaine de tout le monde, et ça le sera de plus en plus, et je l'espère, du fait de la loi de 2005, ça sera quand même que tout le monde se sentira concerné par ça. Mais on est au cœur là du problème, avec les situations de handicap où les élèves ont très grande difficulté, on est quand même dans le cœur du problème de l'individualisation de la personnalisation des situations. Hein. Situation d'apprentissage, des parcours d'apprentissage. Et je trouve que, bon voilà, on a un peu de mal. Enfin, moi, je me sens très très seule, j'avoue.
Oh. on se sent très seul dans nos métiers.
Oui.
Parce qu'ils ont été construits comme ça. Les Américains disent c'est des boîtes à eux. C'est des métiers boîtes à eux. Donc, un prof, une classe, hop, on met un œuf, on ferme. Faire la boîte,
est-ce que je réfléchis tout.
Et là, il y a de nouvelles façons de travailler. Et ça, c'est ce que vous ressentez, c'est le besoin.
Est-ce que tu as une conception française, je sais pas ce que je veux dire, un doute ou comme ça, où on est quand même en France, en particulier, sur cette espèce de, je sais pas comment je vais dire ça, d'élite et d'expertise. C'est-à-dire qu'on a un monsieur individualisation, une madame individualisation, un monsieur autonomie, une madame autonomie. On le nomme et ensuite il est chargé de tout, il va résoudre les choses, il va donner conseil, il ne va pas tenir conseil. Et puis sans forcément qu'il y ait, alors que dans d'autres pays ou dans d'autres métiers, quand on a un métier du soin, où ce sont des équipes réelles qui sont autour et on ne donne pas la mission à un seul. Là aussi, cette difficulté, je crois, systémique en France, où le système, il veut que ça soit toujours dévolu à quelqu'un qui est chargé de résoudre le problème, alors que c'est un problème collectif. Enfin, je dis ça comme ça, c'est une réflexion qui vient.
On est quand même de l'aide personnalisée dans toutes les écoles pour tout le monde. Enfin, on n'est quand même pas.
Est-ce qu'on est vraiment dans de l'aide personnalisée? Moi, ce matin, quand vous avez fait votre exposé, je me posais vraiment la question.
On va voir ce qui s'est passé avec les deux heures.
C'est que on
tourne un petit peu d'autres expériences, d'autres façons de voir le problème.
Moi, donc, je suis coordonnatrice
ZEP. Coordonnatrice ZEP.
Sur un réseau réussite scolaire. On ne sait pas ce qu'on va s'appeler, ce qu'on va faire au niveau des objectifs, il faut passer des détails là-dessus. C'est vrai que moi, là, de là où je suis, cette année, on a mis en place et l'aide personnalisée et l'accompagnement éducatif en même temps. Donc, ce qui n'a pas été sans problème pour se questionner sur quel type d'enfants concernés, est-ce que c'était les mêmes, est-ce que c'était pas les mêmes, quand il fallait aussi pouvoir travailler avec la FEV. Donc, c'est l'association des étudiants des villes qui, eux, sont en charge de l'accompagnement à la scolarité. Et jusqu'à présent, les enseignants sont les seuls prescripteurs. C'est-à-dire qu'on leur donne un certain nombre d'enfants, on leur donne des noms, simplement, en disant bah, quelle famille est d'accord pour que vous interveniez chez eux, etc. Donc, typiquement, là, à l'école, on devait cibler des enfants qui devaient potentiellement... On les mettait dans des cases, quoi, plus ou moins. Et en fait, on a pris notre temps à s'interroger, non pas sur le fond, mais sur la forme. Je crois que ça rejoint un peu ce dont parlait la Marmont tout de suite. C'est-à-dire qu'on est vraiment à mettre en place des dispositifs, ça s'appelle comme ça, moi, là où je m'inquiète, c'est que les enseignants ne sont pas non plus accompagnés pour construire la réflexion autour de ça. L'aide personnalisée, c'est quoi? Finalement, on a dit, on ne va que sur la difficulté scolaire. On a dit, mais attention, ceux qui sont en très grosse difficulté, ce n'est pas la peine. Donc ceux-là, on éjecte. On ne comprend pas ceux qui sont en grosse difficulté scolaire. Et les autres, finalement, on n'est pas sur, me semble-t-il, de la difficulté. Enfin, les enseignants disent qu'ils sont en train de travailler davantage l'estime de soi, ce qui est important, hein, ce qui n'est pas du tout nié, mais qui était déjà travaillé sur d'autres temps et qui déjà était pris en compte par les enseignants. Et la difficulté scolaire, eh bien, ils se rendent compte que ce n'est pas forcément ce lieu-là, quoi. Là, il y a vraiment... qu'est-ce qu'ils font sur ce... enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils peuvent résoudre la difficulté scolaire sur ce temps-là? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'interrogations. Enfin, je suis pas sûre.
Il y a fallu le travail d'analyse de ça.
Non, il n'y a pas de travail de ça. Et là, les directeurs d'école ont reçu en 10 exemplaires tout ce qu'ils sont censés avoir fait depuis le début d'année. C'est hallucinant, en nombre d'heures. Il n'y a jamais aucune analyse. On ne pose jamais la question. Il faut que ça soit fait,
Que les cases administratives soient remplies.
Oui, mais c'est pareil. On cherche toujours à évaluer par rapport à des questionnaires. Oui. On donne des indices qui arrivent d'en haut, et puis il faut que, par rapport à ces indices, on remplisse des cases, on fasse des croix. Et, bon, et c'est ce que disait Madame Armand, on arrive à des choses avec des tableaux à double entrée, là. Oui. Mais jamais... et moi, j'ai assisté à une conférence de M. Meuret la semaine dernière, sur l'analyse et la régulation, et l'évaluation et la régulation dans les établissements, et il nous montrait des... Il y a des choses qui se font ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons, et où, à un moment, les gens se déplacent pour voir ce qui s'y passe, et on interroge tout le monde, que ce soit la TOS, enfin le collège, que ce soit les élèves, tout le monde a droit à la parole pour analyser ce qui se fait, et pour dire ce qu'il en pense. Et nous, on balance des choses comme ça, et tout le monde remplit des questionnaires, et c'est sûr qu'après, on met des mots, et qu'on ne met pas la même chose derrière ces mots. Moi, je vois, moi, j'ai été conseillère pédagogique, je vais le redevenir. Entre-temps, là, je me suis promenée, donc je me suis retrouvée sur un autre poste, donc je suis professeur référent. Et quand je suis le professeur de soutien, c'est l'appellation, quoi. Que référents ne connaissent pas trop, bon, c'est soutien. Et chaque professeur, ou chaque, puisque je fais mi-temps dans le collège et mi-temps en école, chacun a sa façon d'individualiser. Les uns font des groupes immuables pendant toute l'année, parce que ces enfants-là, ben, on les sort du cours, et puis ben, ils vont faire cours ailleurs, bon, et ça ne bouge pas. Il y en a d'autres qui, au cours de l'année, ben, on va repérer les difficultés après chaque évaluation, et je fais de la remédiation. Et puis il y en a d'autres où je chemine en co-intervention. Donc il y a toutes les façons de faire pour identifier et prendre en compte les besoins individuels des élèves. Toutes les façons, faut que je m'adapte à tout. Donc je veux dire qu'il y a toutes les façons de le voir.
Quelles sont celles qui ont un petit espoir où il se passe quelque chose?
Quand on a un projet commun et puis que les enfants, ils savent, parce qu'on les sort de la classe à chaque fois, sauf en co-intervention. Et il y a des enfants qui arrivaient en cinquième, en ont marre d'être sortis de la classe sur les temps, ou qu'on leur rajoute des heures. Ou bien si c'est en parallèle, puisque parfois c'est, ils font avec moi au lieu de faire avec le professeur, mais ils en ont marre, ils font partie d'un groupe classe et auxquels ils appartiennent, et il y a des moments où ils ont envie d'y rester. Alors quand on fait un travail, qu'on fait un retour, puisqu'on a un même projet, par exemple des ateliers de lecture en élémentaire, et qu'on fait le retour de nous, les ateliers qu'on a vécu et les ateliers qu'on fait des autres en classe, bon, les enfants, ils participent à la même chose. Mais quand ils font ailleurs quelque chose qui normalement est la même, mais eux, ils n'ont pas le retour, ils ne savent pas. On a beau leur dire, on a beau faire, bon, donc pour eux, c'est certain, c'est très difficile à vivre. Pourquoi moi?
Et sur la co-intervention?
Alors sur la co-intervention...
Je dis ça parce qu'on a des travaux qui commencent à émerger.
Oui. Voilà. Mais sur la co-intervention, quand c'est bien précisé, quand il y a, c'est ce qu'on disait ce matin, quand on peut en prendre 35 et avoir deux adultes, et à savoir qui, à un moment, fait le côté magistral, le coup, et puis ce que après chaque, on peut voir à ce moment-là, quand on a l'habitude aussi, on peut voir tel enfant, quand à un moment il décroche, tel autre qui a besoin d'une aide plus matérielle, parce qu'il ne s'en sort pas avec sa feuille et son classeur, comme on disait ce matin. Donc moi je trouve ça assez pertinent, mais pas tout le temps non plus.
Il y a des statuts quand vous intervenez.
Oui. Et non, parce que pour eux, que ce soit le professeur ou que ce soit dans les écoles, il y en a un enfant l'autre jour qui m'a dit, pourtant ça fait toute l'année que je travaille, il me dit, mais toi, t'as été déjà une vraie maîtresse.
Ma question n'était pas innocente.
Hein. Non. Et c'est pareil, en soutien, quand c'est au collège, l'autre jour, il y en a un qui dit, oh, ben, vous n'êtes pas comme les autres professeurs, vous n'avez pas le droit de donner des heures de colle, ou de donner...
Et oui.
C'est pour ça que, c'est quand même, moi je me suis posé la question du statut, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là dans le statut.
Le problème, c'est pas que tout le monde soit pareil, c'est comment l'autre vous reçoit. Hein. C'est la même chose.
Et oui, c'est ça. Alors moi qui avais été conseillère pédagogique, maître formateur, j'avais géré mes classes cette année, c'était un peu difficile, bon, parce qu'avoir vraiment un autre statut.
Marc, il y a un de mes élèves, quand je débutais à la piscine, en 6e, à la fin d'année, me demandait si je savais nager, parce que comme je n'avais jamais plongé dans la piscine, il se posait vraiment la question de savoir si je savais nager.
J'anime le CAREP de l'Académie de Dijon.
CAREP, alors moi.
CAREP, c'est le Centre Académique de Ressources pour l'Éducation Prioritaire. C'est notre fonction est mal définie, bien sûr. On est censé accompagner les équipes, c'est comme ça que c'est dit, hein, des enseignants et des pilotes locaux de l'éducation prioritaire sur l'ensemble de l'académie. Donc voilà. La formation, des interventions locales, différentes choses. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et le témoignage de la collègue est allé dans ce sens-là, mais ça aussi, c'est la frénésie des demandes qui nous sont faites, la frénésie des demandes institutionnelles qui nous sont faites, l'individualisation, hein. Typiquement, mais on pourra en parler d'autres choses, les dispositifs d'aide personnalisée, d'accompagnement éducatif, sans que effectivement on prenne le temps, enfin ça occupe le temps qui pourrait être utilisé justement pour permettre aux acteurs de reprendre pouvoir sur ce qu'ils font.
Le temps d'avoir un retour.
Alors, de reprendre pouvoir sur ce qu'ils font, c'est-à-dire passer par un retour sur ce qu'on fait, le partager collectivement, le décanter sur ce qui semble pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Ça passe par des phases de dialogue forcément longues, de réessais, de, c'est pas seulement une concertation qui déboucherait sur un accord. Ce qui me fait dire ça, c'est que quand on arrive, j'irais un peu à la force du poignet, à dégager des temps institutionnels qui permettent d'engager les acteurs eux-mêmes sur une reprise en main de leur métier. Du coup, voilà, il y a vraiment un souffle qui est donné, et à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que aussi bien dans des écoles maternelles, des petits groupes de 2 ou 3 enseignants, mais je pense là, suite à ta remarque, on a accompagné, malgré que c'était dans l'académie de Dijon, j'ai été travailler dans l'Aube, parce qu'il y a un département à côté, avec l'ensemble des conseillers pédagogiques du département qui nous avaient demandé de venir pour les accompagner sur voilà, une nouvelle demande qu'ils leur avaient faite. Vous connaissez le truc, hein, c'est que depuis le début de l'année, ils sont passés d'une conférence pédagogique, d'une animation pédagogique, pardon, à 3 fois 3 heures d'animation pédagogique. Et donc pour eux, c'était un bouleversement professionnel. Et alors bien, chacun s'était dit, ben, moi je vais faire ça, tiens, moi je vais faire ça. Et puis à un moment donné, il y en a un qui a dit, ben, non, on va se prendre 3 jours de formation, on va les négocier avec la structure académique, avoir 3 jours de formation pour nous, le groupe des conseillers pédagogiques, pour travailler entre nous, savoir ce que ça fait dans notre profession d'avoir ce bouleversement. Voilà, ça change quand même beaucoup de choses sur la manière d'aborder les animations pédagogiques. Donc voilà, on a travaillé avec eux et il me semble, il faudrait leur demander précisément, mais que ce qui a pu s'enclencher, c'est pas seulement comment je vais faire mes 3 animations pédagogiques avec la progression. C'est une redécouverte d'un métier qu'ils exercent. Ils n'ont plus à répondre immédiatement à la demande de l'inspecteur. Ah oui, tiens, il y a ce dossier-là, il faut que tu le fasses. Oui, mais attends, j'ai mon animation pédagogique à préparer. Oui, non, mais attends, il y a ce dossier-là qu'il faut. Et puis il faut aller vite dans cette école-là parce qu'il y a un problème. Et puis bon, il faut connaître le truc. Hein,
c'est pas un métier, c'est une fonction.
Oui. Et qu'on perd à chaque fois.
La précision est quand même importante.
Oui, mais je l'ai fait à dessein et je parle de métier en connaissance de cause. C'est bien une redécouverte de leur métier, peut-être une découverte ou une construction de leur métier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je me dis que là, il y a vraiment une piste à creuser, à inviter les gens à occuper tous les espaces qui sont censés utiliser pour répondre à telle ou telle prescription pour retravailler ensemble sur leur métier. Et
je
m'y termine.
Moi, je répondrai. Là, c'est le dit. Moi, je suis sur fait 2 ans, 2 années, je suis sur un réseau de Saint-Fond. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est, on en a parlé tout à l'heure, la multiplicité des personnes qui interviennent, du nombre de personnes. Ça me permet d'être en observation dans une classe et d'avoir 4-5 adultes qui défilent. Ils demandent discrètement à l'enseignant c'est qui, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'il fait là, les infirmières, le psy, l'assistant pédagogique. Ça vient. C'est plus compliqué. Et on s'est rendu compte, parce qu'il y a sur Saint-Fond, on a un périscolaire scolaire qui est très très important. On essaye de mettre en relation le plus possible avec l'école. C'est que finalement, l'obligation qui a été faite d'utiliser au mieux les moyens, parce que c'est toute obligation qui existe, et les moyens qui sont là, il faut les utiliser. Ça mettait la charrue après les bœufs, plutôt que de les mettre avant. Parce que finalement, ça nous obligeait à nous interroger sur les difficultés des élèves et de chercher au mieux ce qui pouvait correspondre à l'analyse qu'on en faisait. Et que les choses ne vont pas de soi, finalement. Il ne suffit pas d'avoir des dispositifs, des personnels. Pour que les choses aillent de soi. Et entre l'aide personnalisée, l'accompagnement à la scolarité, le périscolaire qui avait aussi un accompagnement éducatif, les interventions du réseau hors ou dans la classe ou hors la classe, du coup on est obligé de mettre un peu à plat, mais de quel gamin on parle, de quelles difficultés on parle, de quelles difficultés d'enseignants on parle aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui savent, nous on a des CP renforcés par exemple, il a fallu faire tout un travail sur les analyses de difficultés de l'apprentissage de la lecture, à quel moment j'interviens, avant, après, pendant, en co-intervention. On sait que l'amont est parfois plus intéressant que l'après. Et finalement, c'est l'entrée par les dispositifs qui permet de conduire une analyse. On va penser que ça devrait être l'inverse.
Oui.
Mais là, on rentabilise. Et finalement, ça a quand même du bon. Mais c'est du gâchis. C'est beaucoup de gâchis, quand même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis.
Donc, pardon, faut donc, c'est le bon moment, là. Faut donc rentrer par les besoins repérés.
Mais là, on est dans une situation où on utilise... L'idée, ce serait quand même a priori de rentrer par des besoins repérés. Et là, en fait, on essaye de faire rentrer des besoins dans des dispositifs existants.
On fait tourner le dispositif.
On fait tourner le dispositif.
Qui lui est tombé institutionnellement et qu'on doit tourner à tout prix.
Oui, parce qu'en plus c'est du personnel supplémentaire, donc on ne va pas le perdre. Parce qu'en plus c'est très culpabilisant quand on n'y arrive pas. On a trois personnes dans la classe et en plus j'y arrive pas. Moi, ça me renvoie à autre chose, c'est que l'idée de personnalisation, maintenant d'individualisation, elle renvoie aussi à l'idée de culpabilisation. Et ça, je tiens à cœur. C'est-à-dire que finalement, le gars à qui on a donné tant de moyens, on a dit au plus près de lui, mais il n'y arrive pas, c'est vraiment cette salle. C'est foutu. Ça le pauvre en gros quoi. Et l'enseignant qui a tellement été aidé, s'il s'en sort pas, ben c'est quand même que. Mais voilà. Donc moi c'est plutôt ce côté-là. L'individualisation, ça renvoie vraiment à une. Le danger, c'est la culpabilisation. Et non pas la responsabilisation. Si ça pouvait renvoyer à la responsabilisation, ce serait autre chose. Mais ça renvoie beaucoup de culpabilité. Et je trouve que les enseignants, surtout les jeunes qu'on suit, la première chose qu'ils nous disent souvent, c'est cette culpabilité à ne pas y arriver.
Oui, parce que si on leur a appris que l'école, c'était la réussite pour tous, de la même manière, mais pour tous.
Oui, puis qu'il y avait une espèce d'aller de soi d'enseigner, qu'on sait ou on ne sait pas finalement. Ouais. Il y en a qui vont...
Alors que l'apprentissage, justement, elle va leur faire découvrir plein des gestes professionnels. Ouais. Et qui sont, je dirais, incontournables, et qu'il y a des postures à avoir, jamais à l'UFR, enfin en tout cas chez nous, en tout cas, ils n'ont jamais entendu parler.
Un des problèmes, je parlais de l'obstacle didactique de la distance et de l'altération. Donc, dans le cas, on a effectivement ce problème de culpabilisation est très fort, et derrière ça, c'est la question de l'impuissance. Et il n'y a pas plus, on sait très bien dans les travaux d'aller du travail, qu'entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail réel, il est fait de deux choses, du travail vraiment fait, mais surtout du travail empêché. Il y a ce qu'on n'arrive pas à faire. Et du coup, c'est ce sentiment de souffrance, la souffrance vient de là. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on n'a pas pu arriver à faire et tout le sentiment d'impuissance qui est là. Alors ce qui est très terrible avec ce, je réfléchis tout haut comme ça, mais avec ce dispositif d'individualisation, c'est que du coup, on en rajoute, on met des moyens, et on est encore plus impuissant qu'avant. Donc vous augmentez, donc vous obtenez un effet inverse en termes de posture, de croyance en l'action. Puisque effectivement, on n'y arrive pas et on pourtant met des moyens. Donc d'où la nécessité, pour sortir de ce sentiment d'impuissance, et de se retrouver, alors là je veux dire que c'est de trouver le souffle de liberté en partageant d'abord déjà. Et en essayant, c'est ça la distance, lever l'altérité, c'est de savoir faire le deuil de certaines choses et aider les gens à faire le deuil de certaines de certains résultats dits de réussite pour pouvoir continuer le chemin parce qu'il y a du temps qu'il faut. Parce qu'on est toujours en urgence, hein, on voudrait tout de suite. Alors, il y a du temps.
Moi, je voulais juste dire, on a suivi un dispositif d'aide personnalisée justement cette année avec le Centre Alain Savary dans une école à Marseille. Et ce qui est très intéressant, donc on a eu ce dispositif d'analyse du travail, hein, on est allé filmer les enseignants, tous les enseignants de l'école étaient engagés dans ce projet. On filmait les temps d'aide personnalisée, on filmait les temps de classe, on faisait des autoconfrontations simples, des autoconfrontations croisées, etc. Bon, ils avaient un dispositif très spécifique parce qu'ils avaient choisi de travailler en anticipation. Donc, de travailler en remédiation de la difficulté, etc., mais de prendre des élèves fragiles. Alors, bon, ils avaient travaillé ensemble sur les critères pour le choix des élèves, et ils travaillaient entre midi et deux, pendant une demi-heure, de 1 heure à 1h30, quoi, et après, ils reprenaient la classe entière, et ils travaillaient sur la même chose que ce qui avait été fait avant. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à la question de l'individualisation ou de la personnalisation, je trouve qu'on a tendance à opposer individu et collectif. Or, ça ne s'oppose jamais. Et que dans la pratique et dans le discours des enseignants, ça ne s'oppose pas.
Il n'y a pas d'un côté, on a, même si on a un élève tout seul, il est, même si on a un tout petit groupe, il est toujours dans un collectif, ne serait-ce qu'un collectif imaginaire. Et en même temps, même quand on a un groupe important, on a aussi des individus et des individus isolés, quoi. Donc on est toujours dans cette ambivalence-là, et c'est ça que je trouve intéressant à creuser, à travailler. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de mieux comprendre, à la fois dans le discours des enseignants sur leur pratique, dans les autoconfrontations, ou dans leur pratique, vraiment. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, et moi qui me pose beaucoup de questions par rapport à la formation, c'est la question des représentations. Et parce qu'on est dans, on s'est construit une représentation comme quoi l'individu serait premier, et puis on le socialiserait, et puis il serait dans des collectifs. Alors que c'est une représentation, l'idée du contrat social, l'idée, etc. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui est premier? Bon, il y a des tas de travaux de philosophes, de sociologues, qui sont très intéressants là-dessus. Mais et donc voir qu'est-ce que les représentations qu'on a font sur notre pratique. Et cette idée aussi du développement personnel de chacun, du développement individuel de chacun, qu'est-ce que ça veut dire, je sais plus ça. Et ça, c'était très, très, je trouve, intéressant à voir dans ces dispositifs d'aide personnalisée, où finalement, donc, c'est beaucoup plus ambivalent, mêlé, complexe, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. C'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Et il crée des collectifs, et il y a du collectif qui passe. Enfin, c'est...
Non, mais qui crée des individus collectifs ensemble, je crois que tu as raison. La question que je me pose, c'est quelle est la perception qu'ils ont, eux, de l'individu du collectif? C'est-à-dire que quand l'élève il est exclu, il a une identité qui se constitue par rapport à l'individu et par rapport au collectif. Donc c'est pas tant de la représentation, c'est plus que de la représentation, c'est de l'identité. Donc c'est de l'être. Et que c'est comprendre comment ce vécu fait. Donc c'est effectivement, il y a toujours de l'individu. Madame Armand avait montré cette affaire-là de l'individu. Mais je pense que le travail, il est dans la perception de l'identité qui se, élève qui se constitue, le fait que je appartiens à cette classe, on me retire de cette classe, on me remet dans cette classe.
Alors l'aide personnalisée ne fonctionne pas comme ça. Dans ce cas-là, parce que c'est l'enseignant qui s'en occupe. Voilà. Et c'est pas on me retire de cette classe, c'est on me propose, parce que c'est une proposition, de venir en plus et pour après mieux travailler avec le collectif. Et en général, les élèves racontent ce qu'ils ont fait, ou ce sont eux qui... Ils ont un temps d'avance. Et alors, moi, j'ai fait des entretiens avec les élèves, c'est extrêmement intéressant. Ils expliquent ils viennent là parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils sont en retard. Mais de faire ce travail, et ben après, nous, on en sait plus que les autres.
Et on va leur dire... Voilà.
Oui, mais c'est une différenciation préalable à ce moment-là.
C'est ça qui est intéressant dans ce dispositif, oui. Hein, c'est assez le temps d'avance au lieu d'être en retard, quoi. Voilà. Comme on est toujours en retard.
C'est comme dans les
on est toujours en retard, mais on prend de l'avance. C'est comme dans les groupes de soutien au collège, si par exemple le professeur demande, dit bon, mais demain il va y avoir un devoir et ça serait bien que les élèves on les prépare. Et là, ils le vivent très bien, ça se passe très bien, parce qu'ils savent qu'on est là pour travailler des choses ou qu'ils vont avoir besoin le lendemain. Mais ça demande vraiment une concertation anticipée.
Alors là, l'avantage, c'est que les enseignants le font eux-mêmes pour leur propre classe.
Ben oui.
Moi, je me pose la question d'individualiser dans une classe, mais dans des choses extrêmement simples. Parce que je trouve qu'on vise toujours des choses extrêmement compliquées, surtout quand on parle de parcours. À savoir que quand on a un projet commun, on peut individualiser et différencier au niveau des tâches. Au niveau des contenus. Et pour ça, il faut que l'enseignant ait une bonne connaissance de la didactique. C'est-à-dire que ça lui fait toujours une longueur d'avance parce qu'il peut gérer ses imprévus, parce que individualiser, c'est gérer de l'imprévu aussi. Et quand il a une bonne connaissance en didactique, il me semble qu'il peut parer à n'importe quel profil. Voilà, et je pense que c'est là où la formation doit être insistante. En formation continue. Hein. Apporter des billes, parce que souvent il y a des enseignants qui sont. Alors il y a des enseignants qui sont chevronnés et qui ont des pratiques très intuitives. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une bonne connaissance de la didactique, mais ils sont tellement intuitifs qu'ils savent s'adapter et trouver la situation adéquate pour un élève à un moment donné qui va durer 10 minutes et qui va lui permettre de réussir, sans que que l'élève le sache réellement au sein de la classe. Hein. Donc, je pense que l'individualisation, elle appartient beaucoup à l'enseignant, et pas forcément à l'élève. Et puis, d'autres ont besoin de ce qui est pratique. C'est-à-dire qu'un enseignant de CP, s'il ne sait pas comment se passe la conseillère de lecture précisément, je ne pense pas qu'il puisse aider l'élève qui est en difficulté. Et je trouve qu'en formation continue, quand on apporte ces outils en didactique, les enseignants savent s'en saisir. Ça nécessite de partir de leur pratique, pour les tirer un peu vers le haut, hein, et non pas d'arriver avec la didactique et de plaquer ça sur des pratiques. Mais c'est d'amener à les faire réfléchir sur ce qu'ils font et sur ce qui manque. Moi, il me semble que dans le plus simple, hein, dans la classe, c'est ça, individualiser, sans être dans des parcours, mais, sans mais, l'élève de
déjà
la classe.
Ça, déjà, comment on fait par faire
et réfléchir à ça, c'est individualiser.
Parce qu'il nous reste en gros 10 minutes là, hein, par rapport à ce que je présentais, on a beaucoup parlé du sens des mots, individualisation, personnalisation. On a parlé pas mal aussi sur l'élève, et puis nous, quand je dis nous, c'est-à-dire formateur, pour le moment, ma diapo, elle est vide, pas tout à fait, mais j'ai deux diapos sur le sens. L'étymologie, on va dire, des mots, hein, le sens des mots, une diapo complète sur l'élève, et puis trois toutes petites lignes sur nous, notre formation, en tant que formateur, notre rôle de formateur, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on individualise, on personnalise, on se situe comment par rapport à ça. Alors, si je vous dis ça, c'est que c'est amusant, comme quoi parfois le hasard fait bien les choses. Il y a 10 jours, on avait une journée de travail avec les conseils pédagogiques du département de Haute-Savoie, où on a été amené à savoir travailler ensemble, comment, hein, et pour quelle efficacité. Et j'ai fait le tour de toutes les circos de Haute-Savoie pour rencontrer l'ensemble de mes conseils pédagogiques, où finalement, ça fait 5 ans que je suis conseiller, ça fait 5 ans que j'entends dire travailler ensemble, mais on n'a pas de temps. Alors pourtant, nous, on a 5 jours de formation actée, hein, depuis des années. On a tout un ensemble de choses, mais on ne peut jamais travailler ensemble, l'institution, Mais finalement, j'ai été bien embêté parce que la présentation que j'ai dû faire, c'est que on veut travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est que travailler ensemble? Et puis finalement, on n'a pas envie de travailler ensemble. C'est-à-dire que il y a aussi une représentation. Je ne sais plus qui est-ce qui me le disait dans la journée, entre, je dirais finalement, j'oserais presque dire le fantasme, hein, et puis la réalité concrète. Hein, qui d'entre nous est prêt, finalement, à se découvrir, hein, à se mettre à nu en partie, je dirais, pour dire, bon, voilà, moi je pense avoir telle compétence. Hein, et puis, comment on s'organise pour gérer ces compétences, hein. Donc, j'aimerais bien qu'on complète un peu...
On n'a pas appris à
travailler ensemble. Oui, mais ça c'est facile. Non, mais attends, j'en ai pas après toi là. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais travaillé avec un ami qui travaille dans le bâtiment et travaux publics et ils ont les mêmes problèmes, hein, pour opérer leur chef d'équipe. Et eux, ils ont la théorie du maçon. Dans une ville, hein, tu as 2 entreprises, une qui travaille avec des briques rondes et l'autre avec des briques carrées. Hein, et puis, ils doivent travailler ensemble. Et ils avaient fait toute une typologie, finalement, du type, à savoir si on était dans l'échange, dans la coopération, dans la collaboration. Et finalement, qu'est-ce qu'on allait être amené à mettre en commun, des ressources matérielles, immatérielles, des spécialisations. Et je trouve que là, on est dans le même sens quand même, parce que si, dans cet atelier... On a du mal à remplir finalement cette dernière.
Je trouve que c'est toujours pareil, c'est ça l'écoute, chacun écoute différemment, avec ses filtres, etc. Mais moi je trouve que on l'a abordé, ce que tu dis, et même beaucoup. Alors sur plusieurs, par contre, sur plusieurs registres. Alors on va commencer par le dernier registre. Moi je trouve qu'on a abordé notre réunion tout autour des conditions qui permettent au final, de s'attaquer à ce processus d'individualisation et de personnalisation. On a parlé du problème, on a parlé sur ces conditions. Alors, par exemple, si je termine par toi, quand même, la connaissance didactique, ça peut quand même aider, quand même, hein, pas, entre guillemets, c'est vrai.
Par contre, par exemple, mettre des dispositifs, changer le repère, les élèves, passer du temps d'avance au temps de retard, c'est un symbolique énorme. Ce sont des conditions qu'il faut. On voit bien que tout change à partir du moment où on a ça. Et puis sur nous, formateurs, quand on s'interroge sur l'impuissance, la culpabilisation des élèves, mais aussi des auteurs, quand on se pose sur les questions de choses n'avons pas de soi et le problème du nous, de l'équipe, on est dedans. C'est-à-dire, comment faire en sorte qu'on ne soit pas le seul spécialiste à s'occuper de ça, mais qu'un nous collectif s'en occupe véritablement, ça c'est une première chose. Comment faire en sorte pour qu'on n'ait pas des situations de culpabilisation et d'impuissance en multipliant les interventions, on n'y arrivera pas. Moi, je trouve qu'au contraire, on a, de ce point de vue de la formation, on a les éléments. Donc, ça veut dire travailler sur le nous systémique, du coup, institutionnel. Travailler sur le rapport, la rencontre avec l'impuissance. Quand on rencontre des gens, vous les rencontrez, ils sont face à leur impuissance, ils nous partagent. Vous la recevez, leur impuissance. Et vous avez la vôtre. C'est beaucoup, quoi. Mais ça, ça se travaille en formation, ça. Ça travaille en formation de formateur, en analyse pratique. Et c'est vrai que l'observation du travail et les recherches comme vous faites là, du coup, ça doit avoir des conséquences corollaires sur l'ensemble. Je ne dis pas que du coup, on aiguise le regard des uns et des autres. On travaille ce geste professionnel de l'observation qui fait que votre regard change, du coup votre analyse change. Quoi.
Moi, je suis contente de vous entendre dire que ça se travaille en formation de formateurs parce que
oui,
à midi, on en discute.
Et en recherche-action, enfin, je suis tout à fait
on sur les mêmes trucs.
C'est ça surtout qui est important, c'est la recherche-action.
Au moment du repas, en tant que formateur, moi, je sais que cette formation aujourd'hui n'est pas reconnue comme temps de formation. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé une autorisation d'absence pour pouvoir venir là. Sur mes propres.
Ça, vous n'avez pas en haut de sa voix.
Tu me dis, ça pose
quand même. Non, moi je suis dans le même caquet. Hein. Ça va bien que mon IEN est conciliant. Hein, il sait où je suis.
Sinon,
mais il a sous le coude une autorisation d'absence, il m'arrive quelque chose. Hein, et je suis ici sur mes deniers propres. Et ça depuis 5 ans.
Alors que dans les autres secteurs, la santé, l'éducation, métier, ça fait partie de la supervision et l'accompagnement, l'analyse pratique accompagnée de gens qui s'occupent. Ça fait partie du boulot, en fait.
Et ça, je trouve quand même que ça pose, quelque part, ça pose ouais. Une question, parce qu'on se dit que nous, on a besoin aussi, en tant que formateur, d'une formation, on a besoin aussi de s'enrichir par des échanges de pratiques, des choses comme ça, et qu'on nous, enfin, moi, en tout cas, chez moi, on ne nous permet pas de le faire, quoi. On n'a pas d'espace, on n'a pas de temps. Il y avait un stage de formation qui avait été mis au plan départemental de formation pour le conseiller pédagogique, il n'a pas eu lieu. Pour des histoires financières, et quand on demande une formation, on nous dit ah bon, on vous le fait pas, donc vous demandez une autorisation d'absence pour pouvoir y aller. Enfin, ça, déontologiquement, en fait, moi, ça me gêne. Évidemment, je le fais la démarche de faire parce que je me dis c'est important quand même pour moi, mais quelque part, ça me gêne quand même hein, de dire qu'on a, on n'a pas la reconnaissance de ce besoin de formation.
Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous auriez en tête comme ça, qui ne serait pas, vous n'auriez pas évoqué aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, demain est un jour. Un point comme ça que vous auriez.
Moi, je pense à toute la situation du périscolaire, notamment tout ce qui va être accueil dans les structures de loisirs, ce qui est plus raccroché, on est plus sur l'accompagnement à la scolarité, etc. Où là, il me semble que individualisation, personnalisation, je pense qu'il y a besoin de choses, au fur et à mesure que ça avance, mais on sent bien que là, il y a une. Comment dire ils ont perçu que ce travail-là se faisait et devait se faire avec l'enfant. Et là, on ne va pas parler d'élèves, effectivement, on va être davantage sur l'enfant. C'est une vue beaucoup plus. Ils ont cette vue globale. Alors, ça revient aux prescripteurs, ça revient à ce qu'elle vous racontait là, par rapport à l'histoire, etc. Mais ça existe, c'est opérant. Enfin, je pense que au moins, alors c'est plus ou moins bien fait, on n'est pas forcément toujours content de l'école, de la façon dont c'est reçu, etc. Mais il y a des choses là qui se font et qui sont intéressantes à.
D'accord. Cet apport-là.
Moi, je pensais à la grille d'analyse des dispositifs, c'est-à-dire que. Je me suis rendu compte depuis tout à l'heure, depuis le début de la conférence de la maman tout à l'heure, qu'elle a analysé le sens des mots, mais derrière le mot dispositif, c'est vrai que les enseignants, ils mettent pas la même chose non plus. Et derrière dispositif, moi je mettais objet d'apprentissage. Objet, qu'est-ce qu'on y fait? qu'on est réunis, quel est l'objet de notre rencontre, quel est le statut de l'élève, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y fait? Est-ce que c'est simplement remplir la fiche? Et moi, c'est la question que je pose aux enseignants en formation, parce que je suis conseillère pédagogique en EPS. Et qui en a la responsabilité de ce dispositif? Et ces trois pistes me renvoient, moi, formateur, vers si on est sur l'objet du dispositif d'individualisation, je te rejoins, on est sur la didactique. Si on est sur le statut de l'élève, on est sur les gestes professionnels. C'est-à-dire que dans ma relation pédagogique, dans la relation que j'instaure, dans cette situation d'être personnalisée ou d'individualisation, quel est le statut de l'élève? Quelle est la situation proposée? Ça renvoie à non seulement au geste professionnel, mais à l'analyse de la situation pédagogique. Donc, ça, moi, ça va m'amener plus à une réflexion qui va s'adresser peut-être aux débutants. Et au niveau de la responsabilité, quand le dispositif d'aide personnalisée est sous la responsabilité de plusieurs personnes, plusieurs enseignants, et j'ai rencontré par échange avec les collègues sur ces dispositifs, je me suis rendu compte que lorsque des enseignants interviennent auprès d'élèves qui ne sont pas les leurs, on a des échanges et des regards qui sont bien plus fructueux que quand le dispositif est assumé par le seul enseignant titulaire de la classe. Pourquoi? Parce que l'objet des échanges entre enseignants est l'apprentissage. L'apprentissage mené par l'élève. On ne va pas échanger sur le dispositif, la fiche à remplir, le support, etc. Non, ce qui nous interroge, et l'objet de nos échanges, c'est l'apprentissage et ce que fait l'élève. Et moi, en tant que formateur, ça me renvoie aussi à qu'est-ce que c'est qu'une équipe, qu'est-ce que c'est qu'un échange entre enseignants, ce sur quoi on parle. Et ça renvoie aussi, autour de tout ça, au statut de l'élève, quel est son droit à la parole dans ce dispositif, et puis qu'est-ce qu'on en garde de ça? Parce que quand c'est une activité en temps décroché par rapport à la classe, quand c'est ce dispositif d'être personnalisé pendant le temps de midi, enfin, ou le soir, etc., qu'est-ce que j'en garde? Quel est le lien avec la classe? Comment c'est formalisé? Est-ce qu'il y a des temps qui sont formalisés d'échange entre enseignants? Est-ce qu'on garde des traces pour la communication à la famille? Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une contractualisation qui est faite. Donc j'ai toutes ces questions-là qui sont en suspens et sur lesquelles, moi, en tant que formateur, l'année prochaine, je vais me pencher. J'ai notamment j'ai eu une formation avec des jeunes enseignants sur l'apprentissage de la lecture. J'avais une commande en termes de qu'est-ce que c'est que l'apprentissage de lecture au CP. Et j'ai rajouté dans mon temps de formation qu'est-ce que c'est que d'être personnalisé, quelles étaient vos représentations, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça interroge.
Voilà. On est en pratique là. Pratico-pratique.
On se fait un petit. Tu nous fais un petit truc, tu arrives à t'en tirer?
Oui, non, mais. Voilà. Il y a beaucoup de questions, hein.
Ah, c'est ce qu'il faut. Mais bon, c'est le problème important, c'est qu'elles sont pertinentes. Elles vont l'être. Juste une dernière, parce qu'on va falloir y aller.
Sur l'aide personnalisée, après avoir échangé avec des collègues qui ont mené l'aide personnalisée pendant cette année scolaire, j'ai noté que très souvent revenait quand même la satisfaction quelque part d'avoir l'échange avec un petit groupe d'enfants, ouais, et qui avait cette relation de l'élève avec l'enseignant qui est où il y a du plaisir à cet échange-là, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit, le temps de parole et la minute qu'on va consacrer réellement avec chaque enfant, et ça, c'est vrai que ça va être...
Que je ne suis pas en rare, je travaille sur une circonscription, il n'y a aucune école en rare, et où le temps d'être personnalisé, a été vécu en début d'année comme un temps contraint.
Oui.
Et malgré ça, le regard que j'en ai et dans les échanges que j'ai avec les collègues, c'est un temps qui est positivé. C'est vrai que c'était contraint, mais ça a apporté. Et ça a apporté aux collègues parce qu'ils ont fait des progrès. Eux.
Moi, ce qui m'avait surpris l'an dernier quand on avait eu les stages pendant les vacances de remise à niveau, un des commentaires des enseignants, donc sur le rare par contre, c'est l'idée de dire ben, on a enfin l'impression de faire un métier d'enseignant. Quand on est avec un petit groupe d'élèves. Donc après, ça va demander quelle est cette représentation qu'ils ont du métier, qu'ils ont dans leur classe sur les 24 heures.
Je peux vous dire, sur les années du UFM, cette année, les UFM, quand même, ont été terribles, hein. Mais globalement, comme ça, je dis ça,
les collègues, là où ils se sont retrouvés vraiment, c'est dans la relation qu'ils avaient avec ce qu'on appelle des groupes de suivi. Ils sont 7-8 qui connaissent bien, qui rencontrent régulièrement, pour travailler autour des pratiques. Et c'était le vrai plaisir de l'échange et de passer, faire du récit aussi, mais avec organiser ces pratiques, ça m'a sauvé quelques-uns. Parce qu'à côté, ça, c'est... Il y a la relation.
Mais en même temps, la mise en place doit être personnalisée, c'est pas ça qui était visé, c'est quand même la difficulté scolaire. Donc moi, ça interroge si au final, on ne ressort que cette idée qu'on a gagné parce qu'on est plus à l'aise, parce que l'enfant saura mieux parler à l'enseignant, etc. Il faut qu'il y ait au bout les apprentissages. Nous, c'était déjà quelque chose qui était vécu, ça. On avait des temps du soir où l'enseignant pouvait prendre les gamins par 4, par 5, etc. C'était déjà fait. Et le bilan, on a le même bilan hein, sur les stages de remise à niveau. C'est formidable, l'enfant, il est plus heureux, on se sent plus épanoui, il vient nous parler, ceci, cela. Moi, je regrette, mais c'est quand même... la finalité, c'est pas ça. Moi, ça me choque. Parce que si on se satisfait de ça, d'un point de vue... c'est qu'on est à côté de la plaque, quand même.
C'est une excellente finale pour notre...
Ça veut dire qu'en écoutant et en analysant ce qui va ressortir de ça, c'est qu'on enseignera mieux,